Bonjour à tous. Évasion romanesque cette semaine vous entraîne dans les États-Unis à l'époque de la Prohibition avec Péché de chair, le roman de Penelope Williams sorti en 2000. L'auteur, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme d'Elizabeth Lambert, est né dans l'État de l'Alaska, mais a vécu ses jeunes années dans la Louisiane. Après des études d'histoire et de journalisme radio-télé, elle s'engage pour 6 ans comme officier chez les Marines en 1972. C'est en 87 qu'elle se met à écrire et finit par se consacrer entièrement à cette activité. D'abord publiée sous un nom d'emprunt, elle s'impose très vite sous son vrai nom, comme un grand auteur de romans d'amour historico-policier. Le roman d'aujourd'hui est l'exemple type du genre qu'elle affectionne. Par une chaude nuit d'été des années 20, à la Nouvelle-Orléans, l'avocat Charlie Sinclair, connu pour ne défendre que des Noirs, est retrouvé égorgé dans la cabane d'esclaves, derrière sa propriété. Les premières constatations de la police sur place laissent entrevoir que son épouse, Rémy Lelourie, l'actrice adulée du moment, surnommée Cendrillon, pourrait être coupable du meurtre. Mais Damon Rourke, inspecteur torturé et ancien amant de cette dernière, ne se laisse pas aveugler par les évidences. Il mène l'enquête, creuse et déterre des vieilles histoires de famille. Cela le ramène aussi vers ses anciens camarades de jeunesse avec lesquels il a grandi. Dans le clan des Irlandais dont il fait partie, ils ont tous basculé du mauvais côté. La prohibition leur a permis de se faire une vraie fortune en distribuant de l'alcool de contrebande. Kazem Aguirre, son vieux pote, est à la tête de nombreuses entreprises douteuses pour lesquelles il verse des dividendes au célèbre Al Capone. Mais dans ce camp aussi, il y a un cadavre, découvert dans le bayou, une corde de piano bien serrée autour du cou. Bien que les Afro-Américains n'aient pas de vraie place dans la population de la Nouvelle-Orléans de cette époque, il arrive tout de même qu'un blanc tombe éperdument amoureux d'une esclave de couleur, lui fasse un enfant, et que la génétique ô combien capricieuse permette que l'enfant soit blanc. Alors, il est retiré de sa mère et confié à l'éducation de l'épouse trompée. Mais il s'agit alors d'un tel secret qu'il est enfoui au fond des mémoires. Mais il existe toujours quelqu'un qui sait et qui un jour parle, empêchant ainsi un mariage d'amour. Que reste-t-il alors à ses amants pour finir ? La mort, bien sûr. Cependant, lorsqu'on est un vrai manipulateur, un comédien hors pair, il est toujours possible de faire croire qu'il en est autrement. Rémy Lelourie, finalement, est arrêté pour meurtre, mais les pistes engagées par Rourke ne sont pas toutes bouclées. Et les aveux de la veuve vont l'amener à découvrir le fratricide de son vieux pote Cazet. Damon Rourke et son coéquipier décident de mettre les pieds dans le plat et de confronter l'Irlandais à la vérité, dans l'un de ses nombreux bureaux. Patty Boyle et 4 autres types armés bullaient dans le bureau vitré, jouant aux cartes autour d'une grande table de métal. Ils levèrent les yeux, enregistrèrent vaguement la présence des flics et continuèrent leur partie. Rourke bourrinait de rage, et pourtant, lorsque Kazem Aguirre tourna la tête et que leurs regards se croisèrent, Rourke surprit sur son visage une expression familière. Rourke fit signe à Fio, son coéquipier, de rester en arrière et traversa la salle pour aller seul à la rencontre de Cazet. Il lui décocha un sourire qu'il voulait aimable, mais son univers vacillait, et Rourke ressentit de nouveau un trouble proche du mal de mer. « Salut Cazet, » dit-il. « Comment se passe ta journée ?» Elle se passait bien jusqu'à ce que des super flics que vous êtes viennent encore m'emmerder. « Qu'est-ce que je suis censé avoir fait cette fois-ci ?» Rourke ne cessa pas de sourire. Son regard revint se poser sur Maguire, qu'il regarda droit dans les yeux. « Je suis venu te dire que tu n'es qu'un salaud et un menteur, » lança Rourke, « et que c'est toi qui as tué ton frère. » « Nom de Dieu, t'as recommencé à sniffer de la coke ou quoi ? Je t'ai déjà expliqué que c'était Vinny qui l'avait tué. Quelle que soit l'histoire que tu cherches à fourguer à présent, je doute que tu trouves preneur. Je peux peut-être essayer de la fourguer à Al Capone, avec une batte de baseball toute neuve pour qu'il puisse faire joujou. T'oublies jamais que t'es flic, hein, Day ?» demanda Maguire. « Pourquoi est-ce que tu n'as jamais laissé cette affaire en paix ?» Rourke soutint le regard de l'homme qui, longtemps auparavant, avait été son ami, et qu'il l'avait aimé comme un frère. « Parce qu'il compte, » répondit-il, « Bobby Joe, Sean, Vinny, Charles Sinclair, notre Bride, les morts comptent. » Maguire ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, Rourke eut un désarroi authentique. « Bride ne devait pas mourir, c'est le gang de Chicago qui a foiré son coup, je t'ai raconté la vérité, à part sur la raison pour laquelle j'ai tué Vinny. Et tu ne m'as pas non plus raconté que tu avais tué Bobby Joe, parce que c'était lui qui écrémait la recette, en plus d'organiser des combats en douce. Tu me crois si je te dis qu'avant Bobby Joe, je n'avais jamais tué personne ? Peut-être que si j'avais eu plus d'expérience, je me serais débrouillé pour qu'il n'y ait pas de témoins. Parce que les témoins, c'est comme les dominos. Le nègre et Vinny me voient commettre un crime, le nègre le raconte aux flics, et voilà que je me retrouve à devoir arroser toute une bande de types pour qu'ils ferment leur gueule. Et ils sont devenus gourmands. Sean est devenu gourmand. Vinny est devenu accro au dernier degré et a commencé à avoir la pétoche. Cette ordure de Roy Binderty s'est proposée pour me débarrasser des deux. Il était trop con pour piger qu'une fois qu'il l'aurait fait, ce serait à son tour de disparaître. « Mais, aussi malin que tu sois, reprit-il, je ne pense pas que tu serais remonté jusqu'à moi sans un petit coup de pouce. Je parie que je dois tout ça à ton amour de jeunesse, la petite Rémy Lelouri, la connaissant comme tu la connais, Day. Ça m'étonne que tu ne te sois pas demandé avec qui elle couchait depuis que son mariage battait de l'aile. Vu la taille de cette ville, on était voués à se rencontrer, Cendrillon et moi, tu ne crois pas? Comme ça, je baisais la gloire et elle, elle baisait le danger. Un jour, on était au lit, couchés, Rémy Lelouri et moi. Elle avait ce regard un peu fou qu'elle a parfois, et je la sentais vibrer comme un fil sous tension. Est-ce que ça ressemble à la Rémy qu'on connaît tous les deux? Et puis voilà qu'elle me défie de lui avouer la pire chose que j'ai jamais faite. Et moi, dans un moment de folie, je lui dis que j'ai tué mon frère. Alors je lui demande quelle est la pire chose qu'elle ait faite. Elle me répond, aimer Daman Rourke. Elle nous a manipulés, Day. Elle a voulu nous monter l'un contre l'autre. Tu ne te rends pas compte? C'est elle qui a tout manigancé, répéta McGeer en reculant d'un pas. On me colle tout sur le dos, tu m'arrêtes et elle est libre comme l'air. Ne fais pas ça, Day, dit McGeer. Ne fais pas ça. Rourke plongea lentement les mains dans ses poches, se déplaça sur le côté, se rapprochant des cuves. Derrière lui, Fio s'avança d'un pas. Les premières balles atteignirent Boyle dans le creux du dos. Casey McGeer passa la main dans son dos et tira un automatique en criant le nom de Rourke. Celui-ci plongea à terre, roula en direction des cuves, sortit prestement son calibre 38 et fit feu. Trois balles trouèrent la poitrine de McGeer. Rourke ressurgit de l'autre côté des cuves et courut s'emparer de la mitraillette, toujours appuyée contre le mur. Il crispa son poing autour de la crosse et pressait déjà la détente lorsqu'il releva l'arme. Le vacarme et l'agitation étaient tels que Rourke ne se rendit pas compte tout de suite que le percuteur de la mitraillette frappait un chargeur vide. Un silence inquiétant succéda au vacarme uniquement rompu par le tintement du verre brisé. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Enfin, de dehors, leur parvinrent des bruits de pas précipités et le long mugissement des sirènes. Rourke croisa le regard de Fio. Il avait le visage couvert de sang et les mèches raidies de ses cheveux roux se dressaient sur sa tête. « Alors, t'es content maintenant ?» demanda Fio d'une voix rauque. Rourke ne répondit pas, car, agenouillé près de Casey McGeer sur le sol ensanglanté et jonché de débris, il tentait de boucher avec ses mains les trous que l'homme avait à la poitrine. Casey cligna des yeux et le fixa. « Je jure sur l'étoile bleue, » dit-il en expulsant à chaque mot de grosses bulles de sang, « que je n'ai pas tué Charles Sinclair. » Cette garce nous a manipulés, Day. Elle s'est débrouillée pour que ça retombe sur moi. Rourke pressait ses mains sur les blessures. Le sang s'écoula entre ses doigts, puis son flot se tarit. Mais Rourke est de ceux qui croient fermement qu'un homme ne ment pas quand il est sur le point de mourir. Alors, Rémy Lelouri, qui est libérée de sa cellule, est-elle vraiment celle qui a sauvagement égorgé son mari? Eh bien non. Mais la vérité est bien pire, et Rourke va la découvrir. Mais de là à arrêter le coupable...
L'actu des bibliothèques.
Claire Rangade est à la médiathèque de Crolles ce samedi 25 mai. Auteure, metteur en scène et comédienne, elle vous invite à un atelier théâtre de 10h à 13h pour travailler des improvisations, des lectures de textes et des jeux théâtraux. Tout cela gratuitement, dès 10 ans. Il est préférable de s'inscrire. À la fin de l'atelier, tout le monde mangera ensemble son repas tiré du sac. Et dès 17h, elle monte sur la scène de la médiathèque avec Étienne Roche pour offrir un spectacle musical pour tout public et en entrée libre. Samedi 25 mai, passez la journée au théâtre avec Claire Rangade à la médiathèque de Crolles.